Saviez-vous que l'autre histoire de Genève, une chronique insolite présentée par Carlo Ruexeger.
Saviez-vous qu'un des événements historiques le plus marquant, parmi d'autres, reste sans doute le plus populaire dans le cœur des Genevois, j'ai nommé l'escalade. Depuis 1602, dans la nuit du 11 au 12 décembre, chaque année depuis cette date, Genève fête sa victoire sur les méchants Savoyards qui voulurent s'emparer de la cité. Pour nous, les gosses, les souvenirs de ces multiples traditions nous ravissaient. D'abord, la fameuse marmite en chocolat, symbole des symboles, qui brisait en famille d'un point assuré, et le père déclarant doctement « Ainsi périrent les ennemis de la République !» Alors à nous, marmite, remplie, chocolat, caramel, massepain, pétard, quelle fête ! Un des autres rites incontournables était celui qui consistait à se grimer, se déguiser. Des bals masqués étaient organisés dans tous les quartiers, dans toutes les communes. Sorte de carnaval bachique et populaire où les humbles brocardaient leurs maîtres en toute légalité. Et nous, les gamins, les voisins, les copains, à deux ou trois, avec des fringues piquées à maman ou à la frangine, le maquillage, on se retrouvait pirates, chevaliers, gitanes, et nous partions. Et pendant deux jours, nous faisions le tour des bistrots, des immeubles d'habitation. Et là, maladroitement, nous entonnions l'hymne à l'escalade, le fameux Sekeleno, et en plus la belle escalade. Après cela, on passait au chapeau autour des tables. Les personnes qui nous ouvraient leurs portes étaient accueillantes et après notre Sekeleno, ils nous offraient des chocolats, des oranges, des noix et surtout quelques menus menets. Au retour dans l'allée de notre immeuble, nous faisions le partage et satisfaits, nous rentrions remplir notre crousille. Quant aux personnages picaresques qui, d'héroïnes et de héros, naquit au fil du temps des légendes et les mythes, telle la mère royaume, mais c'est une autre histoire. Saviez-vous que la date précise de l'escalade fut le 22 décembre ? La raison en est que Genève n'avait pas encore adopté le calendrier grégorien et utilisait encore le calendrier julien, ce qui explique ce décalage. Donc, la nuit du 21 au 22 décembre est le passage au solstice d'hiver, où la nuit est la plus longue, la plus sombre de l'année. À 6 heures du soir, les troupes du duc de Savoie, Charles-Emmanuel, se mettent en marche depuis Bonne et depuis le château d'Étrembières. Présents, Charles d'Abigny et ses compagnies suivent les régiments du baron de la Val d'Isère et ainsi près de 3000 hommes, presque tous mercenaires, cheminent lentement suivant le cours de l'Arve. Lentement car suréquipés, le matériel lourd et encombrant, chariots, canons, chevaux, bref. Si lent que parti à 6 heures du soir, ils arrivent enfin sur l'actuelle plaine de Plainpalais à minuit. 300 hommes d'élite partent reconnaître le terrain, leurs casques et leurs cuirasses peints en noir. Sans être aperçus, ils évitent tous les obstacles et se retrouvent au pied de la muraille d'enceinte côté coratrie. À l'aide de leurs échelles, ils montent et s'engouffrent silencieux dans les premières ruelles. Pas de garde, rien, personne ou si peu. Qui pouvait croire que... Tout à coup, un curieux hurle « Qui vive ?» Un tir de mousquet lui répond, puis un deuxième. Bref, on se réveille, on tire, on gueule, les cloches s'y mettent, tant et si bien que les 300 hommes d'élite du duc sont coincés. Ça tire l'épée, ça tire du mousquet, du canon. Massacre. Les assaillants se font tailler en pièces. C'est la débandade. Certains sautent par-dessus les fortifications, hautes de 7 à 8 mètres. Sur la plaine, le gros de l'armée perçurent les bruits du combat et poussèrent des hurrahs. Ils se ruèrent à l'assaut, croyant la ville ouverte. Ils recevront en réponse le feu des canons, des couleuvrines et des mousquets, semant la mort et la désolation. À leur tour, ils reculent, s'enfuient. Charles-Emmanuel, hors de lui, dira à Daubigny « Vous avez fait une belle cacade ». Dans leur fuite, ils laissèrent derrière eux 54 soldats tués et nombre de blessés. Au petit matin, Genève compte ses pertes, 18 citoyens et quelques dizaines de blessés. Il faudra attendre 1603, le traité de Saint-Julien, qui décidera la fin des hostilités. Quant à la suite des événements, Bah, c'est une autre histoire. Saviez-vous que, pour revenir à Dame Royaume, la légende raconte qu'à 3 heures du matin, préparant sa soupe et intriguée par le fracas des combats, elle se précipita à sa fenêtre, se saisit de sa marmite de soupe qui chauffait dans l'âtre et la précipita de sa fenêtre, justement, pour oxyre un assaillant. Il subsiste toujours de nos jours l'emplacement de sa prétendue fenêtre au bas de la coratrie, entre deux banques, une tour, avec, sous la fenêtre du premier étage, le visage sculpté dans la pierre de la dite dame. Parfois, essayez de lever les yeux, prenez le temps, vous y trouverez et découvrirez des choses étonnantes. Ce ne fut pas la seule femme de la cité à s'être illustrée. D'autres projectiles divers tombèrent sur les assaillants. Moins spectaculaires sans doute, mais bien plus efficaces, telle Dame Piaget, qui jeta par sa fenêtre une clé qui permit aux milices de la cité de passer par la porte de derrière sa maison et pouvoir pourchasser les envahisseurs sur leurs arrières. Une autre anecdote est le fameux renfort de Seznien. Il faut savoir que Genève envoya des messagers et autres courriers pour donner l'alerte aux communes de ce qui deviendrait plus tard un canton et quérir de l'aide. Seznien est une commune à l'extrême ouest du canton, avec Chancy et Soral, soit environ 15 kilomètres. Le temps que les messages parviennent à leur destinataire, les combats étaient terminés. Qu'importe, ne le sachant pas, les gens de Seznien s'organisèrent en compagnie et arrivèrent, après les nombreuses auberges qu'ils trouvèrent sur leur passage, joyeux, 3 jours après, aux portes de Genève. Jusqu'en 1603, la politique reprit le dessus. Nouveau traité, nouvelle donne, mais c'est une autre histoire.
Bientôt, d'autres histoires.